Slava Ukraine.
Guerre en Ukraine, le podcast quotidien de la rédaction internationale de Radio France.
Chaque soir, le récit d'une journée de guerre par les envoyés spéciaux et correspondants de France Inter, France Info et France Culture.
Grégory Philips.
Les journalistes et techniciens de Radio France sont sur place pour raconter l'offensive. Plusieurs équipes partout dans le pays, ainsi que dans les pays voisins. Chaque soir, avec ce podcast, nous ferons le point sur la situation.
Guerre en Ukraine.
Un podcast quotidien à retrouver sur l'application Radio France.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de votre train TGV Inouï. En ce moment, la carte Liberté est à prix promo 299 € au lieu de 399 €. Profitez de billets à tarif réduit unique en France et en Europe, même en dernière minute. Entre nous, elle est rentabilisée dès 4 allers-retours. Alors à vous les déplacements pro.
Jusqu'au 28 mars, la carte Liberté TGV Inouï est à 299 € seulement. Profitez-en. Port du masque obligatoire. Vente et informations sur le site et l'application SNCF Connect, en gare, boutique, agence de voyage agréée SNCF et par téléphone. Il y aura toujours un TGV Inouï sur lequel compter.
Toyota. Découvrez la liberté avec la Toyota Yaris, l'hybride qui consomme le moins du marché, et tentez de la gagner pendant les essais extraordinaires dans les concessions Toyota. En ce moment, la Yaris hybride est à partir de 199 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables dans le réseau participant pour toute Toyota Yaris hybride dynamique 9 commandée avant le 31 mars en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 850 €. Études Automobile Magazine novembre 2021. Jeux sans obligation d'achat. Règlement voir toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il est 18h18, on est parti.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's see things on Peter House.
France Inter. Le 18-20.
Demain s'ouvre un sommet européen à Versailles, prévu de longue date, mais qui prendra une toute autre forme. On y parlera politique énergétique de l'Europe, on y parlera défense commune aussi. L'Europe, sinon transfigurée, en tout cas, qui a ouvert les yeux sur tout ce qui la freine aussi dans cette crise ukrainienne. L'Europe aussi confrontée à son rôle dans ce conflit. Peut-on en faire plus pour l'Ukraine sans entrer de fait dans une guerre contre la Russie? On y vient tout de suite avec nos invités. Le bruit du monde ce soir encore avec les notes vocales de Caroline Gillet. Et nous ferons connaissance avec Natalia. Elle est russe, Natalia, elle vit à Saint-Pétersbourg et elle va nous dire ce qu'elle voit et ce qu'elle entend de son côté de la frontière. Le bruit du monde, la suite, sous les radars et loin de l'Ukraine, Sébastien Eugénie a trouvé une nouvelle loi homophobe en Floride, un réchauffement des relations entre les États-Unis et le Venezuela et puis l'Espagne qui compte sur ses influenceurs pour lutter contre l'obésité des enfants. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec un documentaire qui regarde là aussi du côté des Russes, tourné bien avant le conflit dans une ville industrielle de l'Oural avec des ouvriers qui s'interrogent justement sur leur pays et sur leur avenir. À 18h55, c'est le monde d'après signé Claude Guibal. Et cette question justement, sur quoi repose le pouvoir de Vladimir Poutine? Le monde est vaste, la guerre n'est pas loin et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marion Van Rentergen.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, vous êtes indépendante, vous êtes spécialiste des questions européennes. Enrico Letta est là avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire du Parti démocrate italien, vous avez été président du Conseil, député européen, vous présidez l'Institut Jacques Delors. Rarement un sommet européen aura été aussi important, jamais un sommet européen ne s'est-il tenu en pleine guerre, en tout cas à nos portes et au sujet d'une guerre, avec une pression qui de fait devient de plus en plus importante. Le président Zelensky a redit à nouveau en message aujourd'hui, envoyez-nous des avions, dit-il, décidez-vous sur l'envoi de ces MiG-29 dont on parlait à l'instant, proposé par la Pologne. Bien sûr, il parle à l'OTAN, mais il nous parle aussi à nous, l'Europe. Et le sentiment qu'on a, Marion, c'est que Vladimir Poutine attend tranquillement. Si on dit oui, de fait, nous sommes des co-belligérants. Et si on dit non, il est confronté dans notre inaction. Et donc, pour lui, c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'on n'est pas là, en ce moment, nous, Européens, dans les cordes et sans solution?
C'est vrai qu'on est piégé de plusieurs manières, en tout cas de deux manières. Je pense que le premier piège, c'est comment on fait pour aider l'Ukraine encore davantage, parce que c'est assez insupportable de laisser se faire ces massacres. Comment peut-on aider l'Ukraine sans tomber, sans devenir belligérant et donc ajouter de la guerre à la guerre, le but étant quand même d'amener la paix et non pas plus de guerre. Et le deuxième piège, c'est que les sanctions pénalisent celui qui est sanctionné, mais aussi celui qui impose les sanctions, c'est-à-dire nous. Et donc, comment on sanctionne la Russie sans s'asphyxier totalement nous-mêmes? Donc, c'est vrai que ça fera partie des enjeux de ce sommet des 27 pays.
On a une porte de sortie, on a une marge de manœuvre, et selon vous, elle est où si nous l'avons?
Je pense que la marge de manœuvre, elle est dans davantage de sanctions, puisque l'Union européenne, ça c'est vraiment un des points positifs de cette guerre qui n'a pas beaucoup d'avantages. Le point positif, c'est que le cadeau que nous a fait Vladimir Poutine, malgré lui, c'est de réunir les Européens comme ils ne l'ont jamais été, c'est de réunir aussi l'Union européenne et l'OTAN comme ils ne l'ont jamais été, et puis l'avantage collatéral, c'est d'avoir détruit les arguments des poutiniens français, des politiques poutiniens français, il y en a beaucoup qui étaient toujours dans soit une ambiguïté, soit un soutien franc et massif à Vladimir Poutine. Donc il y a quelques avantages. Je pense que militairement, on est sur une ligne de crête, celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est comment on fait pour entrer dans la guerre sans être considéré comme belligérant, sachant que Vladimir Poutine peut aussi décider de son plein gré que nous sommes déjà belligérants. Il l'a dit à propos des sanctions, il a dit vous êtes déjà entré dans la guerre. C'est vrai que nous sommes d'une certaine manière déjà dans la guerre, mais on n'a pas tout fait en matière de sanctions. D'ailleurs, c'est prévu par les 27 chefs d'État et de gouvernement, c'est d'aller dans une forme de gradation des sanctions.
Donc il faut couper le gaz et le pétrole.
Voilà, il reste l'histoire du gaz et du pétrole, parce que c'est vrai qu'on est dans cette absurdité que nous finançons la Russie, alors que nous dénonçons la guerre. Nous donnons, nous Européens, 700 millions par jour par l'achat des hydrocarbures à la Russie, et ça correspond à un tiers de son budget. Donc c'est vrai qu'on peut davantage faire d'efforts. Alors ce qui est difficile, c'est que là il y a peut-être des fissures qui peuvent s'introduire entre les pays, puisque tous les pays ne sont pas concernés de la même manière par le gaz et le pétrole. Nous sommes en France avantagés grâce à notre arsenal nucléaire et à notre
par rapport aux
nucléaire.
Italiens, par rapport aux Allemands, par rapport à l'Allemagne tchèque et bien d'autres, bien sûr.
Du gaz russe. D'autres pays de l'Est sont encore plus dépendants, parfois à 90% du gaz russe. Donc il y a une marge à trouver, mais c'est vrai que je pense qu'on sera obligé. Ce sera dur pour nous. Il ne faut pas se voiler la face. Ces sanctions sont dures pour nous et elles se le seront et elles doivent l'être. Nous devons bien ça. Nous devons bien ce sacrifice à ce qui se passe en Ukraine.
Enrico Letta, c'est vrai que les Italiens sont dans une position très différente de nous, les Français, en matière énergétique, un peu sur la même ligne finalement que les Allemands ou que la République tchèque. Est-ce que vous diriez que cette question énergétique, précisément, c'est le point d'achoppement dont il faut se méfier pour ne pas craquer cette belle union de l'Europe en ce moment dont parlait Marion à l'instant ?
Ça dépend beaucoup de ce qu'on va décider demain, parce que dans ce sommet qui avait été convoqué il y a au début avec tout un autre
agenda
parce qu'on aurait dû parler des réformes du pacte de stabilité et de croissance, les règles financières, donc tout ça a été balayé par la guerre. Et maintenant, c'est en effet la question clé, c'est celle que vous veniez de souligner, c'est-à-dire est-ce que les 27 sont capables de monter une union de l'énergie en deux temps. Un premier temps, urgence, tout de suite, comment faire en sorte que l'on puisse bloquer le gaz et le pétrole de Poutine pour éviter de le financer. Et deuxième temps, comment construire une Europe de l'énergie de moyen long terme qui soit capable donc de rendre l'Europe autosuffisante. Et je pense que le message de demain est très très important, exactement pour faire en sorte que les sanctions qu'on est en train de développer contre la Russie soient efficaces, parce que moi je pense que les sanctions sont très dures et on a un problème de timing, de temps. Il faut le temps, le déroulement des jours nécessaires pour que les sanctions mettent l'économie russe à genoux. On a vu aujourd'hui les agences de notation qui ont dit que la Russie est à un pas de l'abîme, un pas du default. Et ça, c'est le point essentiel.
Enrico Letta, vous disiez l'agenda de départ, c'était le pacte de croissance et de stabilité. Mais au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de parler la même chose? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer ce qui a été mis ici et là sur la table, précisément un nouvel emprunt, de la même manière qu'on a fait cet énorme emprunt au moment du Covid, que là, énormément de lignes ont bougé, en se disant, mettons-nous ensemble pour arriver à avaler tous ensemble et de manière modérée et tous ensemble l'impact énergétique énorme qu'a cette crise. Est-ce que c'est sur la table? Est-ce que c'est vraiment possible?
Oui, c'est ça le point essentiel et j'espère que ça va être celle-là, la direction qu'on va tous prendre ensemble, parce que si on ne fait pas ça, on reste dépendant de Poutine. Et donc, tout ce qu'on va faire contre lui va être très, très inefficace. Donc oui, aujourd'hui, on doit construire un pacte pour une économie de guerre, parce que ça, c'est la chose essentielle. On est entré dans une situation de guerre, pas parce que nous, on est en guerre. On n'est pas en guerre avec la Russie, mais il est évident qu'on va subir tous les conséquences d'une économie de guerre. Mmh. On va subir des conséquences soit sur nos dépenses, soit sur la croissance qui va être naturellement mitigée par tout ce qui est en train de se passer. Donc, il est très important et le rôle de la France est essentiel parce que la France mène le Conseil aujourd'hui européen. Donc, il faut vraiment du leadership maintenant.
Marion Van Rentergen, est-ce que les Américains nous ont tiré une balle dans le pied en coupant les robinets avant nous et sans nous le dire? Ou est-ce que finalement, c'est très symbolique parce que la dépendance des Américains, on sait bien qu'elle est évidemment nettement moins importante que la nôtre. Donc, est-ce qu'ils nous tirent une balle dans le pied ou est-ce qu'ils nous poussent à agir plus vite?
J'opterais plutôt pour la deuxième solution. C'est vrai que les Américains subissent moins les effets des sanctions sur le gaz que nous-mêmes. Donc on peut dire que de leur part, c'est assez facile d'agir de loin. Malgré tout, nous ne sommes rien sans eux. Et je pense que là, l'Union européenne et l'OTAN pieds et mains liés face à cette Russie. Et cette unité s'est manifestée depuis le début de la guerre et elle ne peut que se renforcer. Et je pense en effet que le geste américain est plutôt positif pour nous parce que de toute façon, nous devons agir et tout ce qui peut nous le presser à le faire est positif.
Est-ce que sur le rôle des Américains, Enrico Letta, vous avez le sentiment que ce qu'ils nous disent, c'est on est là, bien sûr, et l'OTAN, c'est nous, ça c'est très clair, mais la première ligne, c'est vous, les Européens. Donc il va falloir que ce soit vous qui agissiez et c'est vous qui auront probablement des décisions difficiles à prendre.
Le risque, évidemment, et il faut éviter ce risque, il faut qu'on soit tous ensemble, parce que tous ensemble, ça veut dire gérer l'asymétrie géographique qui fait en sorte que nous sommes tous l'Europe en première ligne, beaucoup plus qu'eux. Mais il faut aussi être honnête, si on n'avait pas eu les Américains cette fois-ci, au contraire de la gestion un peu... mal équilibré du choix de quitter Kaboul de cette façon un peu désordonnée qui a généré beaucoup de problèmes. Dans cette crise-là, les Américains ont été tout de suite du bon côté parce qu'ils nous ont dit tout de suite, et c'est grâce à eux qu'on a compris il y a quelques mois qu'il se passait quelque chose. C'est grâce à l'insistance américaine qu'on a su être capable d'intervenir tout de suite et d'être prêt avec les sanctions parce que j'ai un peu suivi ce qui se passait en France. Je peux vous dire ce qui se passait en Italie. Personne ne croyait à l'invasion de la Russie de l'Ukraine.
Et chez nous non plus, de très rares exceptions.
On a compris ça le jeudi matin, il y a deux semaines. Et je me rappelle qu'il y a des journaux italiens qui sont sortis le jeudi matin même et qui encore se moquaient des Américains en disant « bon, ils continuent à nous faire peur avec des choses qui n'existent pas ». Et les journaux sortaient quand les politiques parlaient quand les tanks russes, les chars russes étaient déjà en Ukraine. Donc là, les Américains, heureusement qu'ils étaient là, et depuis des mois, ils étaient en train de dire « faut faire attention parce qu'il va se passer quelque chose de horrible ». C'est exactement ce qui est en train de se passer.
Et un peu Cassandre quand même, Marion Van Der Kamp.
Oui, je pense que ce qui s'est...
Même les Ukrainiens n'y croyaient pas. Je me souviens de Zelensky disant « il faut arrêter ces messages d'alerte qui font peur à tout le monde ».
Ce qui participe de la communication, il avait aussi un message à faire passer. Mais c'est vrai que contrairement à ce que beaucoup ont dit en France, d'abord les Américains, comme dit Enrico Letta, cette fois-ci, ça n'a pas toujours été le cas précédemment, ont vraiment essayé fait pour associer les Européens. On sait que Vladimir Poutine faisait tout pour nous exclure totalement de la table des négociations. Les Américains essayaient de nous inclure ou en tout cas nous mettaient au courant en temps et en heure. Et par ailleurs, ils ont été extrêmement bien informés, contrairement aussi à ce qu'on a pu dire en France. Leur service était extrêmement bien enfermé sur ce qui se passait en Russie. Et la tactique et la stratégie américaine étaient excellentes. On se moquait d'eux en disant ils annoncent la guerre qui n'arrive pas. Mais au fond, ils déjouaient leur tactique. C'était d'annoncer publiquement tous les plans de Vladimir Poutine pour l'invasion, pour la retarder. Donc en effet, il parlait à un moment du 14 février, du 15 février, et c'est le fait de le rendre public désarçonnait les Russes. Et il y a aussi un calcul météorologique, c'est que plus la guerre tarde, plus on arrive dans ces saisons où le terrain est boueux et où les chars russes ont des difficultés à se mouvoir.
Il y a une autre question évidemment qui sera évoquée demain et après-demain à ce sommet, c'est évidemment la défense. On a bien vu jusqu'à quel point les lignes avaient bougé, c'est même très impressionnant. L'Allemagne avec ses 100 millions d'euros, le Danemark qui veut un référendum pour rejoindre la sécurité de défense commune, la Suède qui livre des armes anti-chars, la Finlande qui est non alignée mais qui est là aussi. Donc on se dit, en voyant ça, on a fait un pas de géant sur l'Europe de la défense. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on est vraiment à deux doigts aujourd'hui? Est-ce que ces tabous sont tombés selon vous?
Oui, il y a des tabous énormes qui sont tombés. Celui de l'Allemagne, c'est tout à fait énorme que l'Allemagne ait décidé, contrairement à ce qui se passe depuis 1945, de livrer des armes à l'État à l'Ukraine, que la Commission elle-même, la Commission européenne, décide à la demande des États d'acheter et de livrer des armes, c'est un autre tabou. Et c'est un pas de géant qui a été formé. Alors, dans l'immédiat, il n'y a pas d'armée européenne. Ça montre de toute façon que nous sommes toute façon liés à l'OTAN, que nous avons besoin plus que jamais de l'OTAN. Et évidemment, on ne va pas construire une armée européenne du jour au lendemain. Simplement, il s'agit de renforcer déjà les 27 armées nationales. Et l'Allemagne, encore une fois, qui a décidé de consacrer 100 milliards d'euros au budget 2022 pour moderniser son armée, c'est déjà énorme.
Marion Enricoletta dit qu'effectivement, bien sûr, on n'est pas demain à une armée européenne. Mais la question que je me pose, c'est si elle existait, cette armée, est-ce qu'elle aurait pu faire de toute façon les choses très différemment de ce qui se passe aujourd'hui? On n'aurait pas forcément vu non plus une armée européenne sur le territoire ukrainien. Donc qu'est-ce que ça changerait réellement si cette armée existait aujourd'hui?
Bon, je pense que ça changerait en termes de déterrence, ça c'est sûr. On aurait pu être capable d'être beaucoup plus convaincant par rapport à Poutine. Parce que vous voyez, je vous cite cet exemple. Quand il y a eu la crise de la Biélorussie, donc ça fait un peu de temps, l'Europe a tout de suite tenté de faire des sanctions à la Biélorussie. Ces sanctions ont été bloquées par le fait que dans nos règles de la politique étrangère et de défense européenne, on ne peut décider qu'à l'unanimité. Mmh. Il y a eu un pays qui a bloqué ces sanctions. Ce pays n'est pas le plus important de l'Europe. C'est Chypre qui a bloqué ces sanctions pendant des mois avec son veto parce qu'il voulait les mêmes sanctions contre la Turquie, ce qui n'avait aucun sens, évidemment. Poutine, évidemment, n'a pas pris au sérieux les Européens aussi à cause de ces choix absurdes de politique étrangère et ses règles. Donc, pour moi, des règles, il faut, sur la défense et la politique étrangère, introduire les mêmes règles à la majorité simple qu'on a quand on parle d'agriculture, quand on parle de monnaie unique, quand on parle de commerce international. Si on reste avec le veto laissé à chacun des 27, on ne va jamais faire de politique étrangère et de défense convaincante. Ça, c'est, de mon point de vue, le point essentiel. Et en même temps, j'ajoute une chose à laquelle je tiens beaucoup, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas les plus faibles du monde. Parce que deux semaines après le début de cette guerre, Poutine et les Russes n'ont pas encore conquis aucune grande ville Ukraine. En même temps, après deux semaines, les sanctions européennes sont en train de américaines sont en train de mettre l'économie russe à genoux. Donc, il est vrai qu'on est moins fort que boots on the ground, comme on dit, sur le terrain.
Pas de soldats sur le terrain.
Quant aux sanctions, franchement, la force économique de l'Europe et des États-Unis est énorme et on a déclenché toute notre force et je pense que cette force, oui, on va payer nous un coup et c'est pour ça que l'Europe de demain du sommet doit dire aux Européens on va suspendre l'application du pacte de stabilité pour donner la possibilité à chaque pays d'aider tous ceux qui dans nos pays, dans nos systèmes économiques, vont perdre à cause des sanctions. Donc, il faut protéger nos entreprises. Mais en même temps, sur l'économie russe, là, c'est un coup, je pense, mortel.
Merci beaucoup. Merci, Enricoletta. Juste un tout petit mot de conclusion, parce qu'on a déjà fini, Marion van Rentergem. Un sommet raté, en gros. C'est un sommet où on ne se met pas d'accord, notamment sur une sanction massue que pourrait être le gaz et le pétrole. Est-ce que ça, c'est un sommet raté?
Oui, c'est toujours plus difficile que ça, ce genre de sommet. Je pense que ce sera dans la demi-teinte. On n'a pas évoqué non plus, il y a aussi cette demande de l'Ukraine d'adhésion. Qui évidemment, là aussi, c'est un message politique. Il y a un oui envoyé à l'Ukraine de la part de l'Union européenne, mais ça ne marche pas comme ça. L'adhésion, d'abord, c'est pas parce que l'Ukraine est tout à fait légitime pour demander l'adhésion et qu'elle est plus européenne que nous en ce moment, qu'elle remplit tous les critères sur l'état de droit, sur la corruption, etc. Donc ça, on le verra plus tard, mais le message politique aujourd'hui, c'est on vous tendra les bras un jour, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde ou le fracas du monde même avec les notes vocales de Caroline Gillet. Cette fois, c'est une jeune russe qui nous envoie des nouvelles. Elle s'appelle Natalia. Et pour aller jusqu'à 19h, le bruit du monde, la suite, Sébastien Eugénie.
Une nouvelle polémique autour de la communauté LGBT américaine. La Floride va interdire aux enseignants de parler orientation sexuelle aux plus jeunes enfants.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir. On continue à parler de Vladimir Poutine à travers un documentaire très éclairant au sein d'une famille d'ouvriers. Ça s'appelle Combinat.
Le monde d'après, Claude Guibal, bonsoir Claude.
Bonsoir. Nous, on va tenter de voir sur qui tient le pouvoir de Vladimir Poutine. Enfin, bref, qui peut retenir son bras.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète tourne un peu en rond en ce moment, mais il compte un petit échappatoire avec Pierce Faccini, The Damned and the Saved, sur France Inter.
They went down to the river, found a riverbed dry. Shoreline in white rags and veils, and drew out in the sand element for the trail.
Et le bruit du monde, bien sûr, toujours avec vous, Caroline Gillet, et vos notes vocales. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Depuis près de deux semaines, Caroline, vous nous emmenez tous les soirs en Ukraine pour écouter ce dont la vie a basculé. Et ce soir, vous nous proposez de rencontrer une jeune fille en Russie et de raconter comment elle vit les choses, elle, de l'autre côté de la frontière. Elle est à Saint-Pétersbourg.
Oui, elle a envoyé, elle, ses mémos via Telegram, une messagerie plus sécurisée. Elle a 25 ans, elle est russe, elle enseigne le russe à la fac. Mais comme pratiquement tous
ses étudiants étrangers sont partis. Elle a récemment perdu son emploi. Elle a envoyé le son de cette émission que vous entendez derrière nous. C'est une émission de YouTube qu'elle regarde souvent. Les journalistes et commentateurs de la plateforme ont dû quitter le pays. Et Natalia espère que la chaîne ne sera pas bloquée, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule façon qu'elle a pour s'informer. Et c'est sa seule façon de s'informer. Et elle veut absolument pas se résigner. Elle me raconte l'histoire du meilleur ami de son frère qui a 20 ans et qui fait en ce moment son service militaire obligatoire.
Il est parti l'année dernière en été. Et il n'a pas vraiment d'accès sur Internet. Il peut utiliser son portable seulement comme une fois par semaine. Et quand il a appelé mon frère lui a demandé « Est-ce que tu vas aussi en Ukraine pour participer à la guerre ?» Et il ne le savait pas. Personne ne les dit qu'il y a la guerre. Chaque nuit, avant de me coucher, je lis les nouvelles. Je ne peux pas m'endormir. Et le matin, même si je me réveille à cause du son de mes voisins, je ne peux plus dormir parce que ma première pensée quand je me suis réveillée, qu'est-ce que s'est passé pendant la nuit? Et je commence à lire les nouvelles. Et je pense que je dois m'arrêter parce que je peux devenir folle. Notre pays devient plus en plus isolé. On ne peut pas croire que notre pays a commencé la guerre avec nos voisins. Les Ukrainiens, on les appelle nos frères meurent. Tous les gens de ma génération, nous nous sentons désespérés parce qu'on n'est pas d'accord. On ne peut rien faire. On se sent coupable. Et en même temps, le monde entier nous déteste. Les magasins ferment, les prix augmentent, les gens perdent leur travail et on ne peut pas quitter la Russie parce que notre passeport ne permet pas d'aller en Europe. Il n'y a pas d'avion et il n'y a pas d'espoir. Même si cette guerre finira bientôt, je ne sais pas comment vivre.
Et tous les soirs à 19h, il y a des manifestations à Saint-Pétersbourg. Natalia y participe. Elle nous a envoyé un message de l'avenue Nevski, au cœur de la ville, là où elles ont lieu.
Il y a beaucoup de monde, comme d'habitude, mais au lieu de bus, au lieu de voitures, je ne vois que les voitures policières, les fourgons, les barrières. Quand je suis allée à la protestation, à la manifestation, je comprenais que je ne suis pas seule. Il y avait les femmes, les hommes d'âge différent. Bien sûr, plutôt les jeunes, mais quand même, il y avait les gens de 40 ans environ. C'était très important d'entendre que je ne suis pas seule qui pense comme ça. Chaque fois, je suis allée à la manifestation pour protester. Je devais courir parce qu'il y a juste deux options, d'être arrêtée ou de courir. Mes parents, ils ne croient pas qu'ils peuvent changer quelque chose. Ils sont habitués qu'il faut juste s'adapter, continuer à vivre comme d'habitude, même si les conditions deviennent pires et pires et pires, parce que quand même, on est libre. Et quand je dis libre, je voulais dire qu'ils ne sont pas en prison. Ça, c'est la liberté pour la génération de mes parents. La liberté, ça veut dire que quand même, tu n'es pas emprisonné.
Elle est impressionnante, Natalia. On la remercie vraiment, vraiment d'avoir pris le temps de se confier, d'avoir probablement pris le risque aussi
oui,
de vous envoyer ces
fait.
Messages et de se confier à vous.
Merci à elle, merci à Magdalena Hervada et Maman Dissino aussi pour leur aide précieuse sur ce projet.
Et merci beaucoup, Caroline Gillet. On se retrouve évidemment avec
demain.
De prochaines notes vocales demain.
Merci.
Absolument.
What they are doing does not represent us.
Some have voiced their opposition in public.
Et c'est sous les radars, Sébastien Eugénie, nous partons pour les États-Unis pour commencer, où les télés sont en boucle sur la nouvelle loi homophobe de l'État de la Floride.
Oui, c'est un texte qui crée la controverse depuis des semaines. On l'appelle là-bas le Don't Say Gay Bill, le projet de loi qu'on pourrait traduire interdiction de parler des homos, surnommé ainsi par la communauté LGBT+, car ce texte vise en effet à interdire aux enseignants de maternelle et jusqu'en CE2 de parler d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Sujet désormais réservé uniquement aux parents, les parents qui pourront porter plainte contre les écoles si elles outrepassent la loi. Ce texte a été approuvé hier par le Sénat de Floride à majorité républicaine. Cette mère de famille s'inquiète des conséquences sur les enfants de cette loi. Le fait de pouvoir s'exprimer, dit-elle, surtout en tant qu'enfant, c'est la base d'une relation, et le fait qu'ils aient l'impression de ne pouvoir parler à personne, surtout pas à l'école, risque de provoquer de la dépression, peut-être même des suicides, dit-elle. Voilà, le débat crée une très grande crispation en Floride et même dans tous les États-Unis, car d'autres États républicains envisagent de faire passer la même loi. Des dizaines de manifestations ont eu lieu en vain. Il ne reste plus qu'une seule étape pour que la loi entre en vigueur. La signature du gouverneur de Floride, le très conservateur Ron DeSantis, fervent partisan du texte et surtout éventuel candidat à la prochaine présidentielle américaine, l'ancien poulain de Donald Trump, devenu l'étoile montante des républicains.
On reste en Amérique, Sébastien, avec ces signaux de détente inattendus entre le Venezuela et les États-Unis.
Oui, le gouvernement du très anti-américain Nicolas Maduro a en effet libéré la nuit dernière deux prisonniers américains, des prisonniers politiques selon Washington, arrivés cet après-midi sur le sol américain. L'un des deux hommes est un ancien salarié d'une compagnie pétrolière vénézuélienne, condamné pour corruption, accusation mensongère, a toujours dit la Maison-Blanche. C'est clairement un geste de bonne volonté de Caracas envers l'administration Biden, un geste qui fait suite à la visite ce week-end de deux émissaires américains au Venezuela, la première visite de haut rang depuis 3 ans, depuis que Washington a mis le pétrole vénézuélien sous embargo. On entend là Nicolas Maduro en personne à la télé nationale hier, non pas pour dire du bien des États-Unis, il faut pas exagérer quand même, mais pour appeler à la reprise du dialogue avec l'opposition soutenue par les Américains. Nous allons aussi procéder, dit Maduro, à une redynamisation du processus de dialogue politique international. Bref, il se passe quelque chose diplomatiquement entre Caracas et Washington. Les deux pays reprennent langue. C'est bien sûr la guerre en Ukraine qui en est l'explication. Les États-Unis cherchent à isoler Poutine au maximum, dont Maduro est l'un des derniers soutiens. Et le Venezuela possède par ailleurs les plus grandes réserves de brut au monde, très précieuses, alors que les États-Unis ont placé le pétrole russe, on le sait, sous embargo hier.
L'Espagne lance un plan de lutte contre l'obésité infantile.
C'est un véritable fléau dans ce pays. Un enfant sur 3 est en surpoids ou atteint d'obésité. Un vrai problème de santé publique pour le très à gauche nouveau ministre de la Consommation, Alberto Garzón. Il a donc lancé un plan il y a 5 mois. Interdiction aux télévisions, aux radios, journaux écrits, réseaux sociaux, sites web, de faire de la publicité à destination des enfants pour le chocolat, les bonbons, les biscuits, les desserts, les jus de fruits et les glaces.
La obésité est un état pathologique provoqué par la.
Voilà, on entend là un spot de prévention du gouvernement espagnol qui incite à manger sainement et à faire du sport. Le plan du gouvernement espagnol ne s'arrête pas là. Les influenceurs seront aussi interdits de parler de malbouffe aux enfants, qu'ils soient parents, éducateurs, sportifs, artistes, simples people avec un compte Twitter ou Instagram très suivi. Eh bien, ces influenceurs seront recrutés pour faire des campagnes de prévention. L'Espagne a décidé de perdre du poids avant l'été.
Merci beaucoup, Sébastien. Eugénie, bien sûr, on se retrouve demain pour Sous les radars. Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier, c'est maintenant.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO. Corinne, c'est un documentaire que vous nous présentez ce soir, qui a été tourné chez les voisins des Ukrainiens, précisément chez les Russes, hein, et le documentaire s'appelle Kombinat. Il se déroule dans une ville industrielle de l'Oural qui s'appelle Magnitogorsk, et c'est là que le journaliste Gabriel Tégédor a suivi des ouvriers de métallurgie qui s'interrogent sur leur avenir.
Alors, c'est un film qui a été tourné bien avant le conflit, et qui est très éclairant néanmoins sur l'état d'esprit de la population, son rapport à Vladimir Poutine. Il faut commencer d'abord par planter le décor, expliquer à quoi ressemble cette fameuse ville-usine de Magnitogorsk, située très loin de Moscou, à 1700 km. Une ville exclusivement tournée vers la métallurgie, avec à l'intérieur des équipements sportifs, des écoles, des centres de vacances, tous gérés par le fameux MMK, le combinat métallurgique de Magnitogorsk, seul employeur quasiment à des 400 000 habitants du secteur. C'est une économie prospère, mais une ambiance un peu à la Mad Max, avec des kilomètres de bâtiments industriels, de tuyaux rouillés, d'épaisses fumées toxiques aussi qui empoisonnent la population tous les jours. Des gens qui vivent comme nous, qui regardent Game of Thrones à la télé, qui font du yoga, de la salsa, mais qui évoluent dans un quotidien quasiment d'un autre âge. C'est ce qui a beaucoup surpris et interrogé le journaliste Gabriel Tegedor, qui sillonne depuis 20 ans donc la Russie à la rencontre de ce monde ouvrier, de ses aspirations.
Alors justement, Corinne, la famille qu'on suit dans ce film, deux frères qui s'interrogent sur leur avenir pour des questions notamment de santé liées à la pollution du site. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça de la Russie d'aujourd'hui ? Pourquoi ils ont choisi de rester au final, par nostalgie de la Grande Russie, par fidélité à Vladimir Poutine, tout ça à la fois ?
Alors ce qui est étonnant dans le film, il y a un passage avec des images qui sont tournées pendant les commémorations en mai de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle sur place la Grande Guerre patriote. Ouais. On y voit des enfants qui se font prendre en photo avec des Kalachnikov ou qui sont en train d'entonner l'hymne russe. Des rassemblements aussi qui peuvent donner une impression de nostalgie de cette grande époque de l'Union soviétique. Mais en fait, c'est en poussant la porte des foyers dans le cercle privé que l'on prend la mesure vraiment de la relation qu'ils entretiennent entre avec leur pays, Vladimir Poutine. C'est ce qu'a observé Gabriel Tegedor et qui est encore valable aujourd'hui.
Ils ont connu la grandeur et la splendeur du RSS. Ils ont connu une époque où travailler dans cette usine, ça avait un sens. On contribuait, on façonnait le monde meilleur de demain. Et Yeltsin, c'est encore vécu comme une humiliation pour les adultes de l'époque. Et donc, quand Poutine est arrivé, ils ont le sentiment qu'il a de nouveau permis à la Russie d'être respectée sur la sphère internationale. Et donc, ils lui sont très redevables. Mais c'est pas forcément donner son accord total à ce que fait Poutine aujourd'hui. Les gens, ils aspirent comme nous à vivre en paix, à avoir des enfants qui sont en bonne santé et qui peuvent espérer avoir un travail. Mais le gap, il est trop grand entre ce qu'ils ont à y gagner en questionnant et en affrontant, en fait, l'idée dominante. Donc, en fait, ils rentrent dans le rang. Même s'ils y croient pas, ils vont quand même défiler au régiment immortel, cette parade qui célèbre la victoire soviétique contre les nazis. Ils y vont parce qu'il faut être vu là-bas. Et en fait, c'est plus dans la sphère familiale, quand ils en discutent après les journées de travail, que là, on se rend compte vraiment ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, les Russes sont pas dupes. Ils soutiennent pas majoritairement cette guerre. Simplement, c'est extrêmement difficile et périlleux de faire entendre une voix différente.
Mmh. Voilà, c'est un film qui est passionnant, hein, qui appuie notamment sur les points communs que nous avons avec le peuple russe aussi. Ça s'appelle Combinat et il vient de sortir au cinéma.
Et c'est votre choix ce soir, Corinne Pellissier. Merci beaucoup. À mercredi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal, ce soir, Claude, au 14e jour de guerre en Ukraine. Vous nous emmenez derrière les portes du Kremlin et précisément pour tenter de voir sur quoi et sur qui tient le pouvoir de Vladimir Poutine.
Oui, Fabienne, qui a l'oreille de Vladimir Poutine ? Qui, en fait, peut retenir son bras ? Bien sûr, si quelqu'un le savait avec précision, je veux dire, on saurait sûrement comment arrêter cette guerre. On décrit souvent, Fabienne, Vladimir Poutine comme assis sur un système militaro-industriel, un peu un mélange d'idéologies nourries par l'humiliation de la perte de la puissance, incarnée par l'Union soviétique, et un mélange d'affairisme né de la découverte des hydrocarbures dans les années 90, qui a donc été le moteur de la relance de la puissance russe. En fait, d'après les spécialistes, ces deux clans s'équilibraient, s'opposaient encore il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est bien le clan militaro-sécuritaire qui semble avoir pris la main.
Et ce clan des proches de Poutine, il a un nom, en fait.
Oui, ça s'appelle les Siloviki. En gros, ça veut dire les hommes forts. Ce sont eux que l'on voit dans ces fameuses réunions du Conseil de sécurité, en gros, l'ex-politburo, autour, vous savez, de cette longue table où reçoit Vladimir Poutine. Alors, le premier d'entre eux, de ces Siloviki, il s'appelle Sergueï Choïglou, ministre de la Défense depuis 2012. Ce Sibérien de 66 ans est l'homme clé des opérations en Syrie ou de l'annexion de la Crimée. C'est un dur de dur, un ami intime de Vladimir Poutine. Poutine, avec qui il partage des parties de chasse en Sibérie. Vous vous souvenez bien sûr de ses randonnées à cheval torse nu. C'est lui que l'on considère comme le successeur potentiel du maître du Kremlin. Autre pilier, Alexander Bortnikov. Alors lui, c'est l'actuel patron du FSB, donc les renseignements intérieurs, le KGB moderne, si vous voulez. Il est chargé de la répression des opposants. Il est sous le coup de sanctions, notamment pour son implication présumée dans l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Vient ensuite Valéry Gerasimov. Alors lui, c'est le chef d'état-major des armées. Il aurait, dit-on, perdu un peu d'influence avec les débuts ratés de cette offensive qui s'enlise. Et puis enfin, il y a Sergueï Narychkine, le patron du renseignement extérieur, l'équivalent de notre DGSE. C'est lui, souvenez-vous, qui n'avait pas l'air très à l'aise et qui bafouillait lorsque Vladimir Poutine l'avait interpellé devant les caméras de télévision après avoir exposé son plan pour l'Ukraine.
Alors ça, ce sont les militaires, les sécuritaires, mais au niveau politique, Claude, qui conseille Vladimir Poutine ?
Eh bien Fabienne, pas grand monde. Le Premier ministre, Mikhail Mishustin, est surtout un gestionnaire. On lui demande en gros de s'occuper de l'économie du pays. Et alors vous allez me dire, et Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui est vraiment le visage, hein, si vous voulez, de la Russie à l'étranger. Eh bien, ce diplomate de carrière, qui a assisté depuis son bureau à l'époque aux Nations Unies à la décomposition de l'URSS, est bien sûr un fidèle parmi les fidèles, mais il n'a pas ou plus le poids qu'ont aujourd'hui les militaires. C'est surtout un excellent VRP, nous dit-on, mais pas un décisionnaire.
Pardon, est-ce qu'il est... Et qu'en est-il des fameux oligarques, alors Claude, ce pouvoir économique que les sanctions tentent de faire basculer ?
Alors, les oligarques, hein, depuis la chute brutale du plus riche d'entre eux, Mikhail Khodorkovsky, qui était le patron de Yukos en 2003 et qui a été emprisonné pendant 10 ans sur ordre du Kremlin, eh bien les oligarques, ils ont compris que leur pouvoir résidait essentiellement dans la main de Vladimir Poutine. Alors quand les sanctions ont été annoncées, Vladimir Poutine a convoqué ces oligarques au Kremlin, il leur a donné des directives. Ceux qui ont ensuite commencé à prendre leur distance, eh bien ils n'étaient pas à cette réunion, comme le magnate de l'aluminium Oleg Deripaska. Et depuis l'étranger, Deripaska a effectivement lancé, entre autres, des appels en faveur de l'apaisement. En interne, vraiment le marqueur le plus visible du malaise des oligarques, c'est le communiqué qui a été émis par Lukoil. Alors Lukoil, c'est le numéro 2 du secteur pétrolier. Il a affiché son soutien à des négociations pour un arrêt rapide du conflit. Mais Lukoil, eh ben, c'est un opérateur privé, à la différence de Gazprom ou de Rosneft. Et alors Rosneft, c'est le géant pétrolier russe. Et le patron de Rosneft, Igor Sechin, lui, il fait partie des silos Vicky, des hommes forts. Lui, on le surnomme le Richelieu du Kremlin ou Dark Vador, c'est dire. Bien, et oui. Igor Sechin, Fabienne, il fait partie, et c'est important, de ce qu'on appelle le clan de Saint-Pétersbourg. Ce sont ces hommes avec lesquels Vladimir Poutine a fait toute sa carrière depuis qu'il a poussé la porte du KGB à Saint-Pétersbourg, les seuls hommes en qui il semblerait garder sa confiance. Mais jusqu'à quel point, c'est là toute la question, Fabienne, et c'est peut-être là la clé de la fin de cette guerre.
Claude Guibal et le monde d'après. Claude, merci beaucoup. Le 18-20 continue dans un tout petit instant, c'est le journal de 19h d'Hélène Philly et ensuite le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, à tout de suite.